20 часов в Париже.
В Париже, он дюс термометр.
Да, c'est Ron, puis c'est au Cidre.
Accent du monde. François Bernard.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par nos confrères des services en langue autre que le français, avec ce soir pour la rédaction russe, Elena Gabrielian, bonsoir.
Добрый вечер.
Pour la rédaction anglaise, Sarah Elsass, bonsoir à vous.
Good evening.
Et pour la rédaction cambodgienne, Pise Mam, bonsoir Pise.
François.
En deuxième partie d'émission, vous avez choisi de nous parler du retour au pays de l'ancien chef de l'opposition cambodgienne Sam Rainsy, de la pédophilie dans le monde politique russe et de la reprise par le Japon de la chasse aux baleines. Mais tout de suite, on s'intéresse à l'actualité aux États-Unis, où le président Trump est soumis à une fin d'année difficile, critiqué dans ses choix politiques. Le président Trump est aussi lâché par ses plus proches collaborateurs, tout récemment le secrétaire général de la Maison-Blanche, John Kelly, et surtout son ministre de la Défense, James Mattis. Je vais commencer avec vous, Pise Mam, de la rédaction cambodgienne. Jim Mattis, qui est le dernier en date donc d'une longue liste de défections dans le gouvernement Trump, n'est-ce pas?
Oui, François, l'annonce de la démission du général Jim Mattis le jeudi 20 décembre n'a pas vraiment surpris tout le monde, mais tout de même, ça a créé un choc à Washington. Après l'annonce de départ de John Kelly, le secrétaire général de la Maison-Blanche, on se demandait déjà quand ce sera le tour de général Jim Mattis. Il existe beaucoup de divergences de vues entre le secrétaire à la Défense et le président Donald Trump. L'annonce sur Twitter de retrait de troupes américaines de Syrie était le point culminant marquant la divergence entre les deux hommes. Et comme Red Tillerson, Jim Mattis est attaché au principe de respect au système d'alliance et de partenariat. Le principe que Donald Trump ne cesse de détricoter avec ses attaques incessantes contre l'OTAN ou l'Union européenne.
Et le départ du général Mattis marque également un tournant inédit pour la politique étrangère des États-Unis.
Oui, effectivement, le général Jim Mattis était le dernier du groupe dit adulte de l'administration de Donald Trump. Dorénavant, il n'y a plus personne pour empêcher le président Trump à appliquer sa vision de politique étrangère et militaire. Jim Mattis a proposé de partir définitivement fin février, mais Donald Trump a décidé de précipiter le départ au 1er janvier. Il a désormais les mains libres pour appliquer une ligne politique en rupture avec cette décennie d'ordre mondial incarnée jeudi par Washington. Mais on se demande, avec ce qui se passe en ce moment, s'il s'agit vraiment d'un tournant inédit ou bien plutôt une dérive inquiétante.
Alors, nous sommes à la fin de la deuxième année de mandat. Bilan, 45 départs quand même de haut cadre de ce gouvernement Trump.
Effectivement, François, depuis la session de Donald Trump à la Maison-Blanche, son administration aura connu 45 départs de haut cadre. 7 départs au gouvernement, 28 à la Maison-Blanche et 10 dans les diverses administrations fédérales. Ce chiffre très important vient attester le climat très tendu au sein de son administration que dénoncent certains médias américains. Dans un entretien accordé à Washington Post le 28 novembre dernier, le président Trump lui-même affirmait qu'il a un instinct et que son instinct lui dit plus parfois que le cerveau de quelqu'un d'autre ne le pourra jamais. Donc ce n'est guère étonnant, François, qu'il y ait tant de départs dans son administration, car le président n'écoute personne d'autre sauf lui-même, bien sûr.
Merci, Pise Mam. Donald Trump qui n'écoute plus. Alors, si bien qu'on parle de plus en plus d'isolement du président, et vous vous posez cette question, Sarah Elsass, du service anglais, Donald Trump est-il vraiment seul?
Ben en fait, oui, comme on a évoqué avec tous ces départs, et maintenant selon des sources de la Maison-Blanche, anonymes bien sûr, qui sont citées dans la presse américaine, et notamment dans un long article paru cette semaine dans le New York Times, qui atteste un président qui ne fait plus confiance en personne. Là, on peut voir, par exemple, après son avocat personnel, Michael Cohen, qui était un grand supporter, qui a décidé de coopérer avec les enquêteurs fédéraux, ces enquêtes aussi qui ont vu d'autres conseillers coopérer. Et le président voit toutes ces personnes comme des traîtres. C'est une trahison. Et on se rappelle, bien sûr, que Trump avait déclaré dans le passé que lui seul peut réparer le système à Washington. Aujourd'hui, on est à la moitié de son mandat, selon le New York Times encore. Il croit de plus en plus à son propre jugement et évaluation. Il est de plus en plus seul. Il suit son propre instinct, comme on a évoqué, bien sûr, un peu impulsif. Il peut même plus faire confiance à son propre parti républicain. Il y a des tensions. Beaucoup de républicains, par exemple, ont objecté à sa décision de retirer les troupes américaines de la Syrie, qui a bien sûr enterré la démission de Jim Mattis. Non.
Trump est isolé dans une période qui va devenir encore plus difficile, car dans deux semaines, les démocrates reprennent le contrôle de la Chambre des représentants et il y aura des pressions.
Bien sûr, avec ce contrôle, les démocrates vont certainement essayer de lancer des investigations, des enquêtes dans les affaires du président, les affaires de sa famille, sa campagne. Il y aura certainement beaucoup de demandes d'informations officielles. Il y a Nancy Pelosi qui deviendra ou redeviendra le président de la Chambre, qui a déjà dit qu'il y aura une demande des avis d'impôts de Trump qui n'ont jamais été rendus publics. Mmh. Il y aura beaucoup, beaucoup de pression sur les démocrates, surtout venant de l'aile gauche du parti, de commencer un processus de destitution du président, par exemple, avec des enquêtes sur les crimes supposés de Donald Trump. Tout cela veut dire que le président américain devra anticiper des batailles illégales et politiques dans les semaines et mois qui viennent et donc aura peut-être besoin d'alliés qui maintenant ne semblent pas être très nombreux, même s'il reste toujours très soutenu par l'électorat de droite qui l'a amené au pouvoir.
Sarah Elzas du service anglais de Radio France Internationale. Et bien sûr, Elena Gabrielian, on se demande... Quel regard on porte en Russie sur ce shutdown américain ?
Alors, on voit plutôt de bon œil ce qui se passe aux États-Unis, car vous savez que depuis quelques années, les deux pays sont en forte confrontation diplomatique et tout ce qui sonne comme mauvaise nouvelle à Washington semble être la bonne pour Moscou. Alors, en quoi cela concerne la Russie, demanderez-vous ? La réponse est simple. Les experts russes considèrent qu'en cette période de shutdown, il y a très peu de chances que les États-Unis adoptent de nouvelles sanctions contre la Russie, ce qui est plutôt une bonne pronostic. Pour le rouble, la monnaie russe a déjà été gravement affectée par des sanctions successives depuis 2014. Mais il n'y a pas que le rouble, il y a aussi le prix de pétrole qui est, déterminant pour l'état de l'économie russe. Car on sait que la Russie est l'un des plus grands producteurs de l'or noir. Et l'or noir a également subi les conséquences de shutdown. Les prix n'arrêtent pas de baisser, ce qui sème évidemment la panique sur les marchés financiers.
Alors le départ du général Mattis, est-ce qu'il a réjoui la Russie ? On sait qu'il avait une position dure vis-à-vis de Moscou. Début décembre, il avait accusé des agents russes d'ingérence dans les élections du Congrès.
Bah effectivement, même dans sa lettre de démission, le général a écrit que les États-Unis doivent, selon lui, adopter une position ferme et sans ambiguïté face au pays dont les intérêts stratégiques sont de plus en plus opposés à ceux de Washington. Il cite notamment la Russie et la Chine. À Moscou, évidemment, on attend voir qui serait nommé sur ce poste en espérant de voir quelqu'un plus, disons, modéré. Mmh. Certains journaux américains ont écrit que l'annonce de retrait des troupes est en cadeau de Noël pour Vladimir Poutine. Alors l'expert militaire russe Alexandre Goltz le voit plutôt comme un cadeau empoisonné car maintenant c'est à la Russie d'assumer la responsabilité et s'est exprimé au micro de notre journaliste de service russe Denis Strelkov.
Гражданская война не закончилась. Победа над ИГИЛ не одержана. Это значит, что эта война будет.
Alors, il dit que la guerre civile n'est pas terminée en Syrie et que l'État islamique n'est pas vaincu, ce qui veut dire que la guerre peut être interminable et la Russie va continuer à perdre, à dépenser des ressources, ses hommes. Certains considèrent que cela relève de la grandeur de la Russie, mais ceux qui pensent n'envoient pas ses enfants à faire cette guerre, dit Alexandre Goltz, l'expert militaire.
Elena Gabrielian du service russe.
Bienvenidos a este informativo de Paris Live with me, today's
headlines. Accent du monde. François Bernard.
Au Cambodge, le Premier ministre Hun Sen invite le chef de l'opposition à rentrer au pays. Pour aller droit en prison, peut-être, car au Cambodge, le Parlement Pisemam a adopté, c'était mardi dernier, un amendement sur un article de loi qui interdit aux députés de l'opposition d'exercer leurs fonctions.
Oui, François, cela fait presque un an que le pouvoir de Phnom Penh a fait voter une loi interdisant les députés de l'opposition d'exercer la politique pendant 5 ans s'ils sont condamnés par la justice. Le parti de l'opposition a été par ailleurs forcé à dissoudre quelques mois avant l'élection législative en juillet dernier, selon la décision de la Cour de cassation. Et le 25 décembre, le Sénat et l'Assemblée nationale cambodgienne ont adopté une modification à un article clé de cette loi. Il est désormais stipulé que les députés concernés peuvent demander l'autorisation d'exercer la politique s'ils adressent une demande officielle au gouvernement et que cette demande doit être accordée par le roi. Cela concerne 118 députés. Mais néanmoins, le porte-parole du ministère de l'Intérieur cambodgien affirme que certains parmi ces 118 députés ne peuvent pas en demander puisqu'ils n'ont pas respecté les décisions de justice. Et sans surprise, bien sûr, ces députés sont de quelques personnalités les plus importantes de l'opposition, notamment M. Sam Rainsy et Mme Mosokhua.
Alors, Sam Rainsy, c'est l'ancien chef de l'opposition, actuellement en exil à Paris, toujours
Entre Paris et New York.
D'accord. Il a déclaré qu'il allait rentrer au Cambodge bientôt, et cela malgré donc les menaces d'arrestation.
Oui, en effet, il a déclaré qu'il envisage de rentrer au pays début l'année prochaine. Il pense honorer le défi qu'il avait lancé au Premier ministre Hun Sen si ce dernier ne libère pas M. Komsoka, l'autre chef de l'opposition, avant le mois de mars 2019. On va écouter maintenant la réaction du Premier ministre Hun Sen le 26 décembre suite à la déclaration de M. Sam Rainsy. Alors, M. Hun Sen disait, j'ai déjà informé l'aviation civile qu'il ne faut pas interdire cette espèce d'imbécile à monter dans l'avion pour le Cambodge, qui vient tranquillement pour être menotté et aller directement en prison. Enfin, le Premier ministre Hun Sen a qualifié M. Sam Rainsy de chien s'il ne se rend pas au pays avant le 1er mars.
Sans commentaire. Et Kem Sokha, alors, l'autre figure de l'opposition, toujours en résidence surveillée, manifestement, tandis que Sam Rainsy, on vient de le dire, est menacé d'arrestation s'il rentre au Cambodge. Quel avenir pour l'opposition cambodgienne, Pizemam?
L'avenir très très sombre, bien sûr, François. D'autant plus, l'opposition est de plus en plus divisée devant l'arrestation de M. Komsoka et la dissolution du parti. Le clan de Komsoka et celui de Sam Rainsy se livrent à des guerres des mots sur les réseaux sociaux. Le 2 décembre, Sam Rainsy a été nommé chef intérim du parti par ses membres à l'étranger. Le clan de Komsoka dénonce cette nomination comme illégale et maintenant, avec l'amendement de la loi, les deux clans ne sont même pas d'accord pour que ces députés demandent l'autorisation officielle de revenir en politique. Pour Sam Rainsy, il n'en est pas question que ces députés supplient le gouvernement de Phnom Penh pour revenir en politique, car à la base, cette interdiction instaurée par la loi est contre le principe même de la démocratie.
Je reviens vers vous, Elena Gabrielian, car en Russie, le président Vladimir Poutine a signé un projet de loi qui introduit la responsabilité administrative pour l'implication des mineurs dans des rassemblements non autorisés. Qu'est-ce que cette loi peut bien vouloir dire?
Alors, en Russie, désormais, les personnes qui impliquent les mineurs dans les manifestations non autorisées seront désormais sanctionnées. Ces citoyens russes seront menacés d'une amende d'un montant de 30 à 50 000 roubles ou de 15 jours d'arrestation administrative. Et pour les personnes morales, l'amende peut aller jusqu'à 500 000 roubles. Alors, cela touche principalement tout de même les personnes physiques, il faut le dire, parce que c'est elles qui soumettent le plus souvent des demandes d'organiser les manifestations. Et les défenseurs des droits de l'homme en Russie craignent que cette loi ne devienne un autre motif pour réprimer les manifestants. Alors, le député Evgeny Revenko, l'un des auteurs du projet de loi, a présenté cette initiative au mois de mai en disant qu'il faut protéger les enfants, je le cite, des pédophilies politiques. Un autre député, Sergei Vostretsov, de parti au pouvoir, a même suggéré de refuser aux parents le droit d'élever un enfant si un mineur participait plus de 2 fois à des manifestations non autorisées. Alors, ce projet de loi était soumis peu après le rassemblement des sympathisants de l'opposant russe Alexei Navalny en mai dernier, qui portait le nom « Il n'est pas notre tsar », en citant Vladimir Poutine. Et au total, plus de 1,5 personnes ont été arrêtées, dont 600 à Moscou, et principalement, c'était des mineurs.
Et l'adoption de cette loi coïncide avec un sondage qui est plutôt alarmant pour les autorités. 44% des Russes attendent des manifestations, des protestations massives en 2018. Comment vous expliquez cette statistique ?
Alors, il faut rappeler notamment la réforme de retraite qui a été fortement contestée, qui explique justement cette statistique, car la majorité absolue de la population de Russie ne soutient pas cette réforme, même s'il n'y a pas eu de protestation massive jusqu'au présent. Les sociologues constatent quand même la hausse de mécontentement social. Je propose d'écouter la directrice du département des études politiques de Centre Levada, qui a mené le sondage que vous avez évoqué. Elle s'est exprimée au micro de ma collègue de service russe, Ksenia.
Почти максимального, наверное, за время всех наблюдений.
Alors, Natalia Zorkaya partage les observations de ces dernières années et elle constate que c'est la première fois que la popularité de Poutine, qui était normalement au niveau de 80%, a chuté jusqu'à 66%. Il en va de même pour toutes les principales institutions du pouvoir qui ont perdu le soutien de la population. Les indicateurs sont en baisse, dit-elle. Peut-être pour un autre pays, c'est beaucoup, mais pour la Russie, 66%. Même c'est donc pas assez. Plus de la moitié de la population pense que Vladimir Poutine est responsable pour tous les problèmes dans le pays, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. Et selon cet expert, c'est la délégitimisation du pouvoir. Il constate également que les sondages montrent que Vladimir Poutine commence également à perdre le soutien de la jeunesse, alors que pendant plusieurs années, 90% des jeunes soutenaient sa politique. Maintenant, ce taux commence à baisser progressivement.
Alors, le Japon, cette semaine, a décidé de se retirer de la commission baleinière internationale pour reprendre la chasse à la baleine l'année prochaine. Le ministère français des Affaires étrangères a appelé ça un mauvais signal envoyé au multilatéralisme environnemental. Mais les militants environnementaux ne sont pas tous déçus, Sarah Elsass. Vous avez suivi ce dossier pour la rédaction anglaise.
Oui, on a regardé ce dossier puisque le Japon, en plus de reprendre ouvertement la chasse à la baleine, a aussi décidé de se retirer de la chasse dans les eaux de l'Antarctique ou dans l'hémisphère sud. C'est-à-dire que la pêche sera limitée à l'eau territoriale japonaise. Jusqu'à maintenant, le Japon avait pêché dans les eaux antarctiques pour des raisons soi-disant scientifiques, ce qui est permis sous le moratoire de la pêche à la baleine. Nous avons joint Lamy Essemlali, la présidente de la section française de Sea Shepherd, une association de protection de l'environnement, qui a notamment lutté contre la chasse à la baleine dans les eaux antarctiques. Elle dit que la décision du Japon fait fin ou met fin à une certaine hypocrisie.
Alors que l'Italie.
Elle dit que le Japon ne s'est jamais intéressé à la recherche scientifique, que la pêche dans les eaux antarctiques a toujours été pour des buts commerciaux. Maintenant, en fait, c'est plus clair.
Et cette décision lors de sortir de la commission baleinière internationale, est-ce que c'est une surprise ?
Ça fait longtemps que le Japon menace de sortir de la commission, qui a imposé un moratoire en rappel sur la pêche à la baleine il y a plus de 30 ans, en 1986. Le Japon restera d'ailleurs membre observatrice de l'organisation. Même si on peut accueillir la décision d'arrêter la pêche dans l'hémisphère sud, avec les groupes environnementaux accueillent ça avec de bonne foi, la décision de pêcher ouvertement dans les eaux territoriales envoie un message négatif au reste du monde, selon le ministère français des Affaires étrangères. Dans un communiqué, le ministère dit que la coopération internationale est cruciale pour sauver la biodiversité, en reconnaissant que les plus grandes menaces aux baleines, justement, ne viennent pas de la pêche, mais plutôt des prises accidentelles, disent collisions avec les navires, pollution et plastique en mer. Des menaces qui ne peuvent être abordées qu'avec la coopération.
Alors maintenant que le Japon va pêcher des baleines ouvertement, qu'est-ce qu'ils vont faire du produit de leur pêche ?
C'est une bonne question. L'industrie continue par principe plus qu'autre chose. Très peu de personnes au Japon mangent de la baleine et les produits dérivatifs sont interdits dans les produits comme les cosmétiques. L'ami Essemlale de Sea Shepherd nous a dit qu'elle pense que, comme la Norvège et l'Islande qui aussi pêchent les baleines, le Japon trouvera des difficultés.
It's a bunch of very limited people who try to keep on this
Qu'est-ce qu'il dit?
Elle dit que maintenant, ces traditions sont pour des intérêts individuels. Ça va être contre le bon sens et le sens économique. Et ils vont trouver une manière de rendre ça viablement économiquement. Ça va être très difficile. La pêche aux baleines au Japon se concentrera sur les baleines de mink, les plus petites des plus grandes baleines, qui pour l'instant ne sont pas considérées comme menacées.
Bien, c'est tout. Merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde. Pour la rédaction russe, Elena Gabrielian. Pour la rédaction anglaise, Sarah Elsa. C'est pour la rédaction cambodgienne, Pizema. Merci à Valentin Vaner qui a réalisé cette émission. C'était Accent du Monde. À la semaine prochaine. Restez à l'écoute. Un nouveau journal sur RFI dans quelques secondes.